En ce jour anniversaire, Sylvie Gragnotier lit pour vous la déclaration, article après article, tout de suite le 21e.
Article 21. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret, ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, les droits de l'homme, une révolution sans fin. Après un quatrième samedi de mobilisation, le président Emmanuel Macron consulte en ce moment élus, syndicats et patronats avant de se prononcer, une parole attendue ce soir à 20h. Quelle réponse apporter à la contestation en cours? Comment sortir de la crise de régime actuel? Gilets jaunes, 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, idéal démocratique et ses contradictions internes. Beaucoup de sujets qui ne sont pas sans lien à aborder aujourd'hui avec notre invité, le philosophe Marcel Gauchet, rédacteur en chef de la revue Le Débat, théoricien de la fracture sociale, auteur du Désenchantement du monde et de l'avènement de la démocratie. À la rentrée, il a fait paraître Robespierre, l'homme qui nous divise le plus chez Gallimard, parce que Robespierre est le nom de la contradiction qui continue de traverser le rapport des Français à leur révolution, qu'en lui se résume, la formidable ambivalence de ce moment fondateur. Bonjour Marcel Gauchet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. La Déclaration universelle des droits de l'homme a 70 ans. Toute la journée, France Culture commémore cette signature. Quelle valeur a-t-elle encore à vos yeux?
La valeur d'une ratification et d'une amplification de ce qu'on savait déjà depuis deux siècles, au moment où elle a été prononcée. Les idées ne sont pas nouvelles, et ce que cette déclaration a représenté dans le moment de son adoption, c'est surtout un acte solennel de répudiation universelle, pour le coup on peut le dire, de la barbarie nazie. C'est 1948, le souvenir de ce qui s'est passé en Allemagne depuis 1933 est évidemment au premier plan dans les consciences. Au-delà, on est dans le moment aussi d'une prise de conscience de l'impasse de la colonisation. On est dans le moment décolonisateur. On est dans le moment de la construction des États-providence dans le monde occidental qui viennent apporter une réponse à la question sociale qui a ébranlé les démocraties très profondément depuis la fin du 19e siècle. Donc il y a un contexte de réactualisation de principes fondateurs dont les révolutions américaines, la révolution française et l'écho qu'elles ont rencontré dans nombreux pays sont l'arrière-fond. C'était en un sens une déclaration inutile si l'on prend les idées au sens strict, elles étaient dans les esprits, mais elles prenaient dans le contexte une force tout à fait singulière.
Et aujourd'hui, cette déclaration, cette vieille dame de 70 ans, est-ce qu'elle se porte bien?
C'est très compliqué à dire, parce qu'à la fois, on peut dire que les principes qu'elle stipule ont largement emporté l'adhésion dans les esprits. Maintenant, le problème est toujours le même, c'est que des principes aux réalisations politiques et sociales concrètes, il y a un pas immense qui n'est pas prêt de se résorber. Nous le savons lucidement, nous ne sommes plus dans l'illusion de la fondation où il suffirait de proclamer des principes pour que leur mise en œuvre suive d'une façon relativement rapide. La révolution américaine ou la révolution française sont loin derrière nous et on voit que le chemin est toujours à parcourir. Ça reste vrai par rapport à une déclaration beaucoup plus récente comme celle de 1948.
Alors on entendait à l'instant la romancière Sylvie Gragnotier lire l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur la représentation. Quels sont les droits pour vous, les grands principes auxquels nous, Français, sommes le plus attachés?
Je ne crois pas qu'on puisse faire de hiérarchie directe entre les principes. C'est une chaîne. On pose au départ la liberté et l'égalité des personnes. À partir de là, l'exigence est de reconstruire l'édifice social en harmonie avec cette idée première. Donc, il y a une histoire facile à comprendre, il y a une stratification. En réalité, quand les députés de l'Assemblée nationale constituante en 1789 déclarent ces principes, ils ont surtout en vue les principes politiques, la souveraineté du peuple, la participation électorale, le principe de la représentation, qui déjà fait grande difficulté à l'époque. Hein. Toute la Révolution française va tourner autour de ce problème, comme la suite du XIXe siècle. Et puis viendra la grande question, qui est la question sociale. C'est très gentil de donner des droits aux gens, mais s'ils ne sont pas matériellement dans la possibilité de les exercer, ça n'a aucun sens. Ça va nourrir une critique très durable de ces droits de l'homme dont on est tant bien que mal venu à bout, même si là aussi il y a très loin de l'idéal aux réalités, mais on a fait quelques progrès qu'on personne ne peut lucidement nier. Et puis il en reste d'autres qui s'accroissent, la difficulté s'accroît avec l'universalisation même de ces principes. On les décrète universels, mais on voit bien dans un premier temps qu'ils ont une sphère d'application limitée. Disons, la France, ou les États-Unis dans le départ, et puis ça gagne le monde occidental. Et puis aujourd'hui, on est devant un problème planétaire. À l'échelle globale, évidemment, le hiatus entre les nobles principes et les réalités, en fait, ça croît. Donc on voit que la question de la justice mondiale n'est pas une petite affaire et l'horizon est très éloigné où on les verra triompher. On peut travailler pour, mais il y a un effet de désillusion qui tient. On a l'impression que l'écart s'accroît au fur et à mesure qu'on essaye de le combler.
Cette Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, elle est assez proche dans l'esprit de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, revue et corrigée en 1793. Le plus radical dans la défense de ces principes, c'était Robespierre, à qui vous consacrez donc un essai en cette rentrée. Robespierre, l'homme qui nous divise le plus chez Gallimard. Toute nouvelle loi devait être fidèle aux principes de la Déclaration des droits. Il veillait scrupuleusement à ce qu'il soit respecté, racontez-vous, Marcel Gauchet. Les droits de l'homme, pour autant, font-ils une politique? Comment accorder ces principes aux impératifs de gouvernement? C'est aussi cette question que vous soulevez.
C'est la question qui reste la nôtre. Les droits de l'homme définissent une règle de base. Ils ne donnent pas une figure à la société qui va sortir de la mise en œuvre de ces principes. C'est ce dont la Révolution française a été la première expérience très douloureuse. C'est que quels pouvoirs permettent de bâtir ces droits une fois qu'on les a proclamés? C'est la question que la Révolution française n'a pas su résoudre et qu'elle a même et tragiquement échoué à résoudre, d'où la division qui s'en est suivi, qui a duré très longtemps, entre les gens qui tiraient argument de cet échec pour condamner les principes et ceux qui voulaient à toute force poursuivre leur réalisation. C'est là la question qui reste la nôtre. Et il n'est pas de jour, je dirais, dans l'actualité mondiale où nous ne retrouvions cette question. C'est-à-dire, on trouve à s'accorder sur les premiers principes et le désaccord se fait jour très vite sur la manière de les traduire dans la société.
En quoi? Où sont les nœuds de contraction? Comment les principes peuvent s'opposer aux impératifs de gouvernement?
Ben c'est très simple. Pour commencer, c'est l'une des premières apories de la Révolution, la représentation. Est-ce qu'il faut ça comme nous devons tous participer en tant que citoyens à la définition de la loi, puisqu'elle est l'expression de la volonté générale. Que font dans ce processus les représentants? Alors il y a une nécessité fonctionnelle. On ne peut pas rassembler tous les citoyens d'un très grand pays. Déjà, parlons des nôtres qui sont relativement petits à l'échelle globale, mais rassembler 1 700 000 1 700 millions de Chinois, ça paraît difficile. Donc, représentation, c'est obligatoire, mais c'est une question. La déclaration déclare benoîtement qu'on participe ou directement ou par ses représentants. Dans l'esprit des citoyens, c'est pas la même chose. On va, et on retrouve ce questionnement à toute, nous sommes en plein dans l'actualité.
Oui, elle souffre aujourd'hui pour vous.
Cette question de représentation, on voit bien qu'elle n'est pas éteinte.
Elle souffre aujourd'hui pour vous, notre représentation?
Oui. Il y a une crise de la représentation qui est observable dans toutes les grandes démocraties, y compris les plus enracinées, les plus solides, mais où on voit bien que le dialogue entre les citoyens et le pouvoir souffre d'un malaise que le principe représentatif ne suffit pas à résoudre. Alors après, on peut discuter sur la manière de combler cet écart qui est ressenti massivement dans tous nos pays. Toutes les études en témoignent. Mais on peut continuer ainsi longtemps. Les libertés individuelles, oui, jusqu'où? Alors la déclaration française est un modèle d'équilibre et de prudence, puisqu'elle prévoit toujours les bornes prévues par la loi. Mais quelles sont ces bornes? Quelles sont les bornes à la liberté d'expression, à la liberté de réunion, à la liberté de manifestation? Nous sommes à nouveau. On voit très bien qu'il y a une sorte d'écart constitutif, puisque au fond, les droits de l'homme définissent une légitimité, mais ils ne définissent pas la manière de la traduire concrètement. En ce sens-là, on ne peut pas substituer un principe général de légitimité, auquel il n'y a rien à objecter, qui est entré dans la réalité de nos sociétés, c'est le seul imaginable. Mais le chemin reste à faire pour trouver la bonne manière de les concrétiser.
C'est ce qu'on a entendu encore ce week-end. Vous évoquiez le droit de manifester. 1082 interpellations à Paris ont été réalisées samedi. C'est 3 ou 4 fois plus que le samedi précédent. La Ligue des droits de l'homme et certains de ses représentants parlent d'un changement de paradigme avec ces interpellations à titre préventif pour certaines d'entre elles, telles que les pointent les avocats. Là, pour vous, on est effectivement dans ce débat-là. Alors, est-ce que la Ligue des droits de l'homme a raison de se mobiliser et donner de la voix à une journée comme celle-ci?
Ben, il faut se poser la question. Effectivement, un des problèmes les plus difficiles pour tout régime de liberté, c'est l'exercice de la contrainte policière qui est nécessaire à l'ordre public. C'est le statut de la police dans un monde démocratique est par définition très problématique. Les mesures qu'on peut prendre pour encadrer toutes les libertés, sur quelques plans que ce soit, sont une question béante. Et il est normal qu'il y ait des gens pour les soulever. Ça me semble faire partie du jeu démocratique qui doit absolument... En démocratie, tout se discute. Je crois que si déjà ce principe-là était bien clair dans l'esprit et des gouvernants et des citoyens, on aurait fait un progrès, y compris dans la capacité d'échange entre le pouvoir et les gouvernants.
J'en reviens à la figure de Robespierre, figure honnie par beaucoup, louée par certains, cet incorruptible défenseur du peuple. Qui il inspire encore aujourd'hui, Marcel Gauchet?
En fait, il inspire tout le monde. Je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire ressortir dans mon livre. Il a le type de démarche qu'il a mis en œuvre pendant la Révolution française, a laissé une empreinte extrêmement profonde dans l'imaginaire, la culture politique française. Il y a une empreinte qui peut être d'ailleurs tout à fait inconsciente chez beaucoup d'acteurs. Il n'y a pas besoin de révérer Robespierre pour être robespierriste malgré soi. C'est une des caractéristiques de toute culture politique. Cette exigence de rigueur sur les principes est une marque très distinctive de la façon dont fonctionne la société politique française. La pire injure qu'on puisse faire à un homme politique en France, c'est d'être un gestionnaire, c'est-à-dire au fond un pragmatique dont les grands principes sont pas le souci prioritaire. Et il apparaît comme déchu par rapport à ce que doit être un gouvernement qui a une inspiration supérieure. C'est d'une certaine façon un des traits qui font à la fois l'étonnement est souvent la risée de nos voisins, pour qui, au contraire, la gestion est la qualité prioritaire d'un gouvernant. C'est-à-dire sa capacité à faire tenir un pays de manière non chaotique, ordonnée. Nous, nous avons l'habitude de prendre des risques avec le culte des principes. Et ça, je pense que c'est quelque chose que Robespierre a fait entrer irrévocablement dans l'idée française de la République. Après, on conçoit que rien que dénoncer ce trait signale qu'il va y avoir contradiction autour. On ne peut pas être d'accord, on ne peut pas rêver d'unanimité au travers d'une telle démarche. Vous vous souvenez, il y a sa célèbre apostrophe, elle est un peu apocryphe, mais peu importe, « périssent les colonies plutôt que les principes ». Oui, voilà. Ça suscite tout de suite une discussion normale. Il est dans la logique des choses que cette démarche qui se veut impeccablement rigoureuse dans le respect des valeurs fondatrices de la société politique suscite la discussion dès lors qu'elle met en péril des réalités qui ont des avocats et une épaisseur qu'on est obligé de considérer.
Alors certains louent aujourd'hui son régime de vertu, cette conception qu'il avait du peuple qui est très intéressante, hein, vous le racontez, c'est le peuple vertueux par essence, toujours prêt à sacrifier son intérêt privé à l'intérêt général, là où les plus puissants sont souvent tentés, enclins à privilégier, protéger leur avantage personnel. Une conception très, très virtueuse du peuple. Il l'idéalisait, ce peuple.
Oui, il y a chez lui à la fois un raisonnement très fondé et un mythe qui est en même temps un mythe personnel. C'est une image de lui-même parce qu'il s'identifie à ce peuple vertueux dont il se veut d'une certaine manière le porte-parole exemplaire. En effet, la partie raisonnement reste d'une grande actualité. Là où probablement on peut la discuter, c'est de savoir si elle est véritablement fondée. Le peuple, pourquoi le peuple est vertueux? Non pas par une essence métaphysique, mais sur la base d'un raisonnement. Quand on a très peu ou rien, et que on sait par ailleurs que son sort est intimement attaché à celui de la collectivité dans laquelle on est inscrit, on est évidemment plus porté à sacrifier son intérêt privé à un intérêt général qui sera finalement le vôtre au final, que des gens qui ont ou des positions importantes ou des biens considérables qui songent, comme dit Robespierre, soit à leur ambition, soit à leur cupidité, qui leur fait désirer davantage, qui leur fait préférer, presque en toutes circonstances, leur intérêt privé. Il ne dit pas d'ailleurs que les riches sont incapables de vertu par définition, les riches ou les puissants, il dit que c'est très peu probable. C'est une analyse subtile, hein, c'est pas simplement une idée en l'air absurde, non. Elle a des racines, et d'ailleurs, elle est clairement une anticipation de l'analyse que Marx fera un demi-siècle plus tard du rôle du prolétariat dans l'histoire, qui, n'ayant à perdre que ses chaînes, peut être l'agent émancipateur du genre humain. C'est le point de départ de cette analyse, très clairement.
Et quand vous dites que c'est encore beaucoup d'actualité, c'est vrai que c'est un mot, le mot « peuple », qui a beaucoup ressurgi dans la rue ces dernières semaines et sur les bannières. Est-ce qu'il correspond à ce peuple qu'adulait Robespierre?
Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il se reconnaîtrait nécessairement.
Dans le mouvement des Gilets jaunes, par exemple?
Je ne vais pas parler à sa place, je n'ai aucun titre à le faire. Mais je pense vous savez, il avait eu une réaction qui lui a valu beaucoup d'ennemis dans le Paris révolutionnaire de 1793. C'est le peuple ne se déplace pas, ne se soulève pas pour du sucre, parce qu'il y avait eu une insurrection liée au problème des subsistances dans la rue, et je crois qu'il dirait peut-être un peu la même chose. On ne se bat, le peuple ne se soulève pas pour un plein d'essence. Mais là, j'abuse probablement de ma liberté d'historien pour faire parler à mort. Il y a une vérité. Je pense qu'il y a deux dimensions dans le peuple d'aujourd'hui. Le peuple dans lequel Robespierre se reconnaîtrait si on continue à le faire parler malgré lui, c'est le peuple qui réclame sa place dans la société politique, qui réclame à être entendu, qui réclame à ce qu'il y ait une politique qui soit tournée vers ses intérêts. Et ça, certainement, de ce point de vue, nous sommes dans une logique qui est fidèle à ses idées. Et puis, il y a le peuple qui défend des intérêts singuliers, qui ne sont pas nécessairement tous bien entendus, et vis-à-vis desquels la discussion est parfaitement légitime. Mais c'est là, justement, où l'on voit les limites de l'idée de peuple politique telle que Robespierre la développe, c'est qu'il n'est pas possible d'en faire un bloc unanime où tout d'une pièce, il saurait parler de ce qui est l'intérêt général de la collectivité. Là est le problème. Évidemment que le peuple est divers, évidemment qu'il est traversé par des aspirations contradictoires. Il n'est d'ailleurs que d'écouter tout ce qui déferle sur les antennes et les plus variées depuis le début de ce mouvement d'aujourd'hui. Et on voit bien que, très normalement, il s'attire dans toutes les directions et qu'il n'y a pas de, philosophie ou de programme des Gilets jaunes. Il y a une protestation parfaitement légitime, dont tout le problème des gouvernants est ensuite de trouver le point à la fois de satisfaction et le point de réunion, qui n'est pas une petite affaire.
On va y venir. Alors vous écrivez aussi dans ce livre qu'il est l'homme, Robespierre, qui a le plus intimement épousé le principe de la révolution des droits de l'homme, qu'a été la révolution française, que quand même il a cristallisé autour de sa figure sûrement beaucoup des crises à venir. Et dans le nouveau numéro de la revue de France Culture, papier, vous écrivez aussi « Les robespierristes de stricte observance sont devenus une espèce à préserver au titre de la biodiversité. Pourquoi ?»
C'est, comme vous l'avez bien compris, c'est une plaisanterie. Mais je pense que précisément la rigueur principielle dont se réclamait Robespierre est à la fois entrée dans les mœurs, je crois qu'elle est... Je ne connais peu de Français qui ne soient pas robespierristes d'une manière ou d'une autre. C'est très frappant.
Mais vous ne les nommerez pas. Mais vous ne les nommerez pas. Non. Ceux que vous connaissez, voilà. Comme quoi sa mauvaise réputation continue aussi à le poursuivre.
Oui, bien sûr. Et en même temps, cette mauvaise réputation est à corriger pour au moins comprendre en quoi elle représente un de nos héritages fondateurs. Elle l'est. Par ailleurs, le robespierrisme strict, c'est-à-dire justement ce populisme, si l'on peut dire, dans la rigueur du terme, c'est-à-dire la volonté de trouver dans la République le régime parfaitement fidèle à l'inspiration première des droits de l'homme. Ce robespierrisme-là est effectivement derrière nous, parce que, et la prise de conscience du problème politique, et la prise de conscience du problème social, et aujourd'hui, la question civilisationnelle qui est posée au travers, par exemple, de l'interpellation écologique, déplace évidemment complètement les questions. Et je crois qu'il ne faut pas non plus faire de cette fidélité à une inspiration fondatrice un critère qui aurait une valeur particulière. C'est dans cet esprit que je me suis permis ce mot appelé à faire discussion.
Sur la biodiversité.
Un peu provocateur.
Voilà, et vous rappelez qu'il restera un réprouvé au regard du consensus majoritaire avec ce spectre de 1793, la terreur. Ben oui. Il fera exécuter Danton, son rival, beaucoup vont l'assimiler à un précurseur, non pas des populistes, comme vous venez de l'évoquer, puisqu'il a aussi fondé ce concept de peuple, mais des totalitarismes.
Alors je crois que cette image-là est en revanche totalement fausse. Elle est évidemment ce qui aujourd'hui disqualifie le plus la figure de Robespierre après le passage par les totalitarismes et après l'annexion de Robespierre par le léninisme qui en a fait une sorte de figure prototypique dont il suffisait au fond de reprendre les principes pour leur trouver un mode d'application plus efficace. Il est évident que Robespierre est devenu pour la grande masse des citoyens de nos démocraties, un inavouable. Mais il n'est pas du tout celui, il n'est en rien un précurseur de Lénine. Il est resté jusqu'au bout un homme de la légalité républicaine, comme le prouvent les conditions de sa fin. Il est allé, seul, faire un discours à une assemblée où il s'est trouvé mis en minorité, d'arrestation, exécution. Lénine, il serait... Mettons, laissons le cas de Lénine, puisqu'il n'était plus en position de se trouver dans cette situation, mais on ne voit pas Staline se trouver mis en échec de cette façon dans son régime. C'est évident que Robespierre a été emporté dans une expérience dont il est très intéressant d'essayer de rendre compte, ce que j'ai fait, mais qui le met à milieu de toute espèce de totalitarisme. Je crois que là, il y a une erreur de perspective à corriger, il y a une justice élémentaire à lui rendre.
Ce que vous faites dans votre livre Robespierre, l'homme qui nous divise le plus, paru à la rentrée chez Gallimard, Marcel Gauchet, on va s'adresser à l'auteur désormais du Désenchantement du monde, de l'avènement de la démocratie et de comprendre le malheur français, c'est-à-dire vous, jusqu'à 13h30. Vous êtes notre invité, il est 13h21 sur France Culture.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Français nerveux, Français inquiets, Français raisonneurs et bavards, quand serez-vous guéris enfin de cette manie détestable de douter de vous, de vous rendre aigrement responsable vous-même des coups que vos voisins vous portent? Je vous ai entendu cette semaine vous chargez de 1000 tares indéfectibles, dénombrer avec complaisance vos insuffisances, vos erreurs. Vous avez des défauts sans doute, vous avez surtout celui-là de médire sans cesse de vous. Vous vous estimez en détail et vous vous méprisez en masse. Oubliez-vous ce que vous êtes et tout ce que vous avez fait, et qu'on ne respire nulle part si librement un air si pur et si léger que dans le merveilleux pays dont l'Allemand Friedrich Siebourg a déclaré « La France est la somme de tout ce qui rend la vie de l'homme digne et belle ».
Les mots du poète et dramaturge Paul Géraldi appelant les Français à prendre confiance en eux, de quitter, de se guérir de cette manie détestable de douter d'eux-mêmes, comprendre le malheur français. C'est l'un de vos précédents ouvrages, Marcel Gauchet, pour reprendre donc votre titre. On va essayer de comprendre ce qui nous rend tous si malheureux aujourd'hui, cette fracture sociale que vous avez théorisée, ce pessimisme collectif, on est en plein dedans. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que vous diriez que ça va bien au-delà de la fracture sociale, ce qui est en train de se jouer?
Oui, je crois qu'on est dans un phénomène d'approfondissement de la crise des démocraties qu'on voit venir depuis longtemps. Je me suis permis d'en parler il y a bientôt 20 ans. Et le phénomène n'a cessé de s'approfondir. Il est l'effet, presque mécaniquement, de cette situation nouvelle créée par ce qu'on appelle mondialisation. Mondialisation qui n'est pas qu'économique, qui est aussi politique, et qui a pour effet de se projeter à l'intérieur. C'est pas simplement les rapports à l'extérieur. Les rapports à l'extérieur se projettent à l'intérieur des sociétés et divisent, font éclater littéralement les territoires et la société entre des mondes qui cessent même de se parler. Il y a un effet, c'est l'une des choses très saisissante dans ce que nous sommes en train de vivre, c'est la découverte, pour beaucoup de gens, d'une société française dont, au fond, ils ignoraient presque tout. On voit bien qu'il y a là quelque chose qui pose un grave problème. Qu'est-ce qu'une société démocratique dont les milieux dirigeants ne connaissent pas la véritable nature, dont ne savent pas ce que vivent une grande partie de leurs concitoyens?
Vous pensez que vraiment ils ne le savent pas?
Je crois qu'ils ne le savent pas. Ou plus exactement, parce que là nous sommes dans une dimension supplémentaire à introduire, ils en ont une idée statistique. Ils connaissent les chiffres, même ils les connaissent trop bien. Mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent dire dans la manière dont les gens vivent ces situations. Ils ont le pouvoir d'achat à la deuxième décimale près, on le connaît. On a affaire à des gens très compétents, on ne peut pas le nier. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement dans la manière de vivre? On le voit bien, Emmanuel Macron, sans entrer dans la discussion de sa politique, il voit bien, c'est sa politique, il ne faut pas taxer le travail. Grand principe, ok. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il taxe les moyens d'aller au travail, au travers des taxes qu'il avait fait, que son gouvernement avait adoptées. Ça témoigne d'une ignorance de la façon dont fonctionne au concret la société dans laquelle il est supposé exercer un rôle direct de direction.
Alors, il a créé suscité un espoir il y a un an au moment de son élection.
Énorme.
Le nouveau monde, la disruption, ça allait changer,
un
le renouvellement, le dégagisme, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comment mesurer ce qui est en train d'arriver?
D'abord, on peut le dire, je crois, de façon assez tranchée, il a fait le contraire en tant que président de ce qu'il avait promis en tant que candidat. La présidence jupitérienne, c'est pas ce qu'il avait annoncé. La concentration technocratique du gouvernement, c'est le contraire de ce que le mouvement En Marche promettait, comme écoute de la société, comme passage vers une politique plus délibérative. Là, il n'y a pas de discussion, c'est pas compliqué. Même le Parlement voit son rôle réduit à presque rien. Donc, il y a un problème. Est-ce que... Alors, on peut comprendre sa démarche. Il avait un problème de crédibilité politique. En tant que gouvernant, il n'avait pas d'expérience, il n'avait pas la légitimité personnelle que confère une installation dans le paysage politique depuis longtemps. Donc il en a fait trop. Mais est-ce que la promesse que nous portait En Marche, qui était une promesse beaucoup plus large que la personne d'Emmanuel Macron, a encore la possibilité de devenir effective? Ben ça, c'est la question qui est posée au jour d'aujourd'hui. Et par ailleurs, on voit bien, tout s'est retourné contre lui. Dans un premier temps, les Français ont été satisfaits globalement, toutes les études semblent indiquer, de la prestance d'un jeune président, dynamique, reconnu internationalement, qui, de façon tout à fait classique, donnait une image avantageuse de leur pays à l'échelle internationale. Et puis, petit à petit, Emmanuel Macron s'est enfermé dans ce rôle international, de telle sorte qu'il est devenu un président hors sol, qui en plus ne se privait pas d'émettre des jugements d'un goût assez douteux sur ses compatriotes depuis l'étranger. Ça, tout ça finit par créer une accumulation de dysfonctionnement par rapport à ce qui est attendu d'un pouvoir démocratique dont il est aujourd'hui victime. Il y a beaucoup plus que des revendications économiques dans la crise française actuelle.
Aujourd'hui, cette fracture sociale et morale, telle que vous la définissez, Marcel Gauchet, se rappelle à son bon souvenir. Il y a aussi un mouvement qui donne peut-être un élan au projet démocratique. Il est intrinsèquement instable, c'est ce que dit le politologue James Miller, aussi dans les pages de la nouvelle, du nouveau numéro de la revue Papier de France Culture. Les révoltes populistes sont indispensables à la vitalité de la démocratie. Elles remettent en question le statu quo. Là, c'est bien le statu quo qui est remis en cause. Ce soir, le président de la République parlera aux 20h, après un long silence, enfin, diront certains. Qu'est-ce qu'il doit dire, qu'est-ce qu'il peut dire pour montrer qu'il a entendu, vu ce qui se jouait dans son pays?
L'une des choses cruciales, s'il veut réaliser la disruption par rapport à son propre rôle, est de savoir dans quelle mesure il est capable d'autocritique. Parce que les pouvoirs n'avouent jamais, comme les grands criminels. Ils ont toujours, ils changent éventuellement de politique à 180 degrés, mais c'est toujours au nom de la continuité du projet. Je crois que l'une des choses dont Emmanuel Macron gagnerait à donner l'exemple, j'ai pas de conseil à lui donner, mais je le crois profondément, c'est de donner une image d'humilité du pouvoir qui correspondrait beaucoup plus à ce qu'était la grande promesse de son quinquennat.
Humilité.
Humilité.
Et des mesures. Merci beaucoup Marcel Gauchet, merci d'avoir été autour de cette grande table à l'occasion des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Robespierre, l'homme qui nous divise le plus, qui est paru à la rentrée chez Gallimard. Merci à toute l'équipe de la grande table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez, à Oriane Delacroix avec Henri Leblanc, à Milena Hellig à la réalisation avec Alex Dang. Le nouveau numéro de la revue Papier est donc sorti. Sommes-nous encore démocrates? C'est son titre et votre livre aussi. Tous deux sont à trouver en librairie. Très bel après-midi à tous sur France Culture.